Guermann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour ce 4 février 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Alors, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Semaine assez mouvementée sur les marchés boursiers, puis ça a commencé par la nomination du nouveau gouverneur présumé de la Fed aux États-Unis, de la Réserve fédérale. Donc, une nomination qui est, est un peu controversée au niveau des attentes. Donc, c'est un gouverneur là qui, historiquement, veut rapetisser la taille du bilan de la Réserve fédérale. Ça veut dire qu'il veut retirer de l'argent en circulation sur les marchés financiers. Alors, ça a comme effet là, de déprécier la valeur des actifs. Donc là, on rentre un petit peu dans la technicalité, on ne va pas trop s'étendre. On a vu par contre le prix de l'or. L'or, souvent, qui est un actif, on dit « Ah, ben le dollar américain va baisser, donc je vais acheter de l'or. » Mais là, si on retire des dollars américains, on retire de l'offre de devises. Donc, le prix de l'or a baissé. On était à un sommet de 5600, on est tombé à 4400. Là, c'est toute une varlope. Là, ouais. Ça a vraiment baissé d'une vingtaine de pourcents dans la journée. L'argent, pas l'argent monétaire, mais l'argent, le métal, moins 30%. Ça s'est quand même un peu replacé. On est remonté autour de 5000 avec l'or. L'argent a remonté un petit peu. Même le Bitcoin aussi, là, on n'est pas très, très crypto, là, mais le Bitcoin qui était quoi, à 120 000 là, à l'automne, on est autour de 75, 78 présentement. Donc, quand même une baisse assez importante. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui a brassé. Ça a aussi entraîné les marchés financiers, les marchés boursiers à la baisse. Donc, le TSX, cette semaine, en baisse de 2,2. Donc, le secteur des matériaux là, a vraiment affecté le TSX+. Le S&P 500 en baisse de 0,8. Le Nasdaq, 2,3%. Le Nasdaq, c'est plus au niveau des résultats financiers puis des titres d'intelligence artificielle. Donc, le fameux Mag7, là, donc on est dans la saison des résultats financiers. Microsoft et Apple ont rapporté des résultats financiers. Puis, tu sais, à la base, les résultats sont très bons, mais les attentes étaient plus élevées même. Donc les titres ont réagi négativement. Si on prend dans l'ensemble, là, il y a à peu près le tiers des entreprises qui ont rapporté les résultats financiers. En général, la croissance là, moyenne des entreprises, c'est une croissance entre 10 et 12% des revenus. On s'attendait à 8. Donc, la croissance, elle est plus forte que prévu. 75% des entreprises qui ont donné les résultats financiers à date ont battu les estimés. Ça, c'est un petit peu en bas de la moyenne. Là. Généralement, il y a un petit peu plus d'entreprises qui battent. Mais quand ils battent les résultats, ils ont battu d'environ 9% en moyenne. Ça, c'est plus élevé que la moyenne. Là où le bas blesse, si on veut, là, le défi du marché face à ça, on dit « Ah, mais tu sais, ça va bien. » Oui, ça va bien. Par contre, les attentes sont élevées, les ratios cours-bénéfices anticipés sur le S&P 500 à 22 fois les bénéfices. Ben, tu sais, j'ai des attentes élevées, tu as beau être bon, il faut que tu sois très bon là, pour me surprendre et que je fasse monter le prix de l'action. Ça peut quand même arriver. Là. Donc, le sentiment qu'on a présentement, c'est une rotation de la croissance des revenus absolus. Donc, on parle au Microsoft ou Amazon et tout ça. On veut juste que, OK, tu fais plus de ventes. OK, c'est bien. Là, maintenant, montre-moi que tu fais des profits. Donc, c'est un chiffre de la croissance vers le rendement sur l'investissement. Tu as mis 100 milliards dans des chips NVIDIA. Combien de profits tu vas faire de plus pour ce montant-là? Pas juste d'avoir des ventes, mais je veux que tu me montres des profits sur le bottom line, comme on dit. Alors ça, c'est à voir. Et là, il y a un petit peu, il y a l'intelligence artificielle là, qui réussit à accomplir plein de choses. Donc, les entreprises de logiciels, donc on a vu qu'ils se font beaucoup brasser. Là, il y a un petit peu des attentes. OK, avec Anthropic, ChatGPT, puis ça, les entreprises vont toutes pouvoir canceller les services de logiciels qu'elles utilisent puis le faire eux-mêmes. Tu sais, attendons, là. L'être humain a tendance à fortement surestimer les changements à court terme et à fortement sous-estimer les changements à long terme. Là, on est encore dans le court terme. Tu sais, c'est pas demain matin que ça va arriver. Prenons notre gaz égal. Là, les marchés boursiers ont toujours tendance à surréagir à peu près tout. On verra là, qu'est-ce qui va se passer. Donc, on reste bien discipliné. Fondamentalement, Les résultats financiers sont bons, mais les attentes sont aussi élevées.
Merci beaucoup, Martin. La semaine dernière, nous avons parlé d'un des outils que nous utilisons pour faire notre recherche sur les titres, l'outil Morningstar. Donc, tu as expliqué c'était quoi, à quoi ça nous sert. Cette semaine, on veut aller plus loin et expliquer notre méthodologie complète de sélection de titres, ainsi que les autres outils que qui nous aident à faire nos recommandations d'investissement pour nos clients. C'est un sujet qu'on a déjà fait par le passé, mais c'est vraiment une question qu'on se fait poser une fois par semaine au moins. Comment vous le faites pour décider quel titre dans lequel investir? Donc, ouais. Aujourd'hui, on voulait y revenir. Est-ce que tu peux expliquer sommairement un peu notre processus de sélection de titres?
Oui, puis là, on parle de sélection de titres et non de nécessairement de construction de portefeuille. Tu sais, votre profil d'investisseur qui va déterminer j'ai combien d'actions, combien d'obligations, là, c'est fait, là. Mettons, là, on passe à l'étape de dire, OK, mais quel titre choisir pour bâtir les portefeuilles? Ça part de nos convictions. On en a déjà parlé dans le passé, là, mais qui sommes-nous comme investisseurs, Sarah et moi? Ben, en partant, nous, on a admis il y a plusieurs années qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer à la bourse cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, on n'essaie pas d'anticiper les marchés boursiers, là. C'est prouvé que ça ne fonctionne pas. Toutes les prévisionnistes, là, qui annoncent que la bourse va monter de X ou baisser de Y, là, they're just guessing. Ils font juste essayer de trouver. Puis on dit qu'il y a juste deux sortes de prédictions boursières dans le marché. Là, il y a des chanceuses puis des mauvaises. Donc, on pense aussi, nous, qu'à long terme, l'énergie fossile fait moins de sens que l'énergie renouvelable. T'sais, on a un besoin croissant d'énergie. Probablement que le renouvelable, à très long terme, va prendre une place plus importante. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, des fois, le pétrole ne peut pas être un bon investissement, mais nous, on a une vision à plus long terme. On veut éviter de compétitionner. Donc, le commerce en ligne avec Amazon en tête, c'est difficile là, de compétitionner comme ça. On voit beaucoup de magasins là, fermés. Donc, on a moins tendance à investir dans ce genre d'entreprise-là. On veut aussi, bon, on a vu Blockbuster disparaître il y a quelques années à cause de Netflix. Ben, c'est une tendance, le câble, par exemple, tout ce qui est médias, c'est difficile à rentabiliser. En général, on va éviter aussi d'investir dans les compagnies aériennes, dans les compagnies biotech, puis surtout dans la spéculation. Là. Donc, tu sais, les mines juniors, la crypto, les titres de cannabis, là, c'est pas ça qu'on fait. Là, tu sais. Donc, c'est la base de nos convictions. Bien, après ça, quand on choisit des entreprises, évidemment, bien, on veut des entreprises qui sont bien gérées, une bonne équipe de gestion, stable. On veut un bilan solide. On veut que ce soit des entreprises qui démontrent une croissance des revenus puis des bénéfices à long terme. On veut que ce soit des entreprises qui sont rentables. Puis des fois, bien, une bonne façon de mesurer la rentabilité, c'est pas une façon là, infaillible, mais tu sais, paye-moi un dividende. Si tu es capable de me payer un dividende, c'est déjà un premier indicateur que tu es rentable. Donc, presque tous les titres qu'on détient, pour ne pas dire tous les titres qu'on détient, versent un dividende. On aime bien ça. Pas nécessairement un gros dividende, ceci dit. On préfère un petit dividende en croissance plutôt qu'un gros dividende qui risque de se faire couper. Là. Donc, ce n'est pas universel encore là, mais c'est nous, notre conviction. Puis pour les fonds et les FNB, ben, l'outil Morningstar nous aide d'une grande aide. Là, donc, de connaître combien d'étoiles, c'est quoi la performance passée. Puis au-delà de du rendement moyen sur 10 ans, on veut savoir comment il a été réalisé aussi. Donc, pas juste regarder le rendement cumulatif, mais le rendement annuel par année civile, puis voir est-ce qu'il y a là-dedans une année, par exemple, où le rendement est tellement exceptionnel que c'est peu susceptible que le gestionnaire, tu sais, c'était plus de la chance que du talent, on va un petit peu handicaper la performance du gestionnaire pour s'assurer que c'est répétable à long terme. On veut donc bien comprendre le style du gestionnaire. Comment il travaille? Comment est-ce que je suis capable de comprendre pourquoi la performance du fonds a sous-performé ou surperformé une année donnée? Parce que je comprends comment il travaille. Puis c'est correct là, qu'un gestionnaire sous-performe une année. Ce qu'on veut, ce n'est pas d'être bon à chaque année, mais que sur un cycle complet, que le gestionnaire ait atteint une bonne performance.
Ben, puis aussi, on recherche les compagnies de fonds qui sont bien établies, qui sont bien reconnues. On ne va
pas... Les nouveaux venus dans l'industrie, ouais. On n'a pas d'opinion négative à leur endroit, mais si on les connaît moins, on a moins tendance à mettre l'argent de nos clients dans des entreprises qu'on ne connaît pas. Donc, on s'en tient aux familles de fonds bien établies en général.
Donc, peut-être tu peux nous parler maintenant, quelles sont les différentes sources d'informations que nous utilisons pour nous aider à faire des recherches sur les titres, sur les fonds? On a parlé de Morningstar. Peux-tu nous parler des autres?
Exact. Donc, Morningstar, c'est notre outil, là, l'immense base de données où on a tous les résultats financiers de toutes les entreprises sur 10 ans. Donc, ça nous permet de voir est-ce que la compagnie a grossi, est-ce qu'elle ne grossit pas, quel est son taux de croissance, des profits, des ventes, des bénéfices, de vraiment là, toutes les données financières sont là-dedans. Ça nous permet là, vraiment de comparer par rapport à l'évaluation aussi. MarketQ, qui est notre système de cotation. Donc là, on a accès au marché en temps réel, mais aussi à toutes les transactions, qui sont les actionnaires principaux. Là, il y a vraiment là, une tonne d'informations là-dedans.
Il y a des graphiques aussi qui sont super révélateurs.
Exact. Des fois, on va sur Yahoo Finance, puis on regarde notre graphique à un an, puis on dit « Ah, tu sais, le titre va bien. » Ben nous, on a le graphique, tu sais, sur 30 ans d'un titre. Fait que ça met des choses en perspective des fois. Évidemment, dans la maison, on a des analystes. Hein? Oui. Chez Desjardins, on a une très bonne équipe d'analystes. Donc, on se fie aussi à leurs recommandations, mais pas nécessairement exclusivement. Là, on a accès là, à toutes sortes de rapports de recherche de différentes firmes. Puis, on s'accote sur nos analystes, mais également sur les analystes.
Puis, dans MarketQ, on peut aussi voir les prévisions de certains analystes.
Exact. Les prévisions moyenne de toutes les analyses. On a également, bon, MRB Research, qui est une firme de macroéconomie. Donc, eux ne vont pas se prononcer sur un titre en particulier, mais plus sur un secteur, une tendance ou une géographie. BCA Research aussi, donc même principe. Ils ne sont pas toujours d'accord l'un et l'autre. C'est ça la richesse d'avoir plusieurs sources. Bien souvent, MRB puis BCA sont pas sur la même page.
Ouais.
Ils n'ont pas la même opinion. Et ils sont tous si intelligents l'un que l'autre. Donc, ça démontre que faut pas juste choisir qui on écoute. ARC Research, c'est une entreprise indépendante qui fait juste vendre de la recherche sur les titres. Donc, eux, c'est à la base, là, c'est des comptables, forensic accountant, là, des comptables qui vont dans les tribunaux quand il y a des fraudes financières pour expliquer les résultats financiers. Donc, c'est très utile de bien comprendre. Ils sont pas mal bons pour déceler de la comptabilité qui est plus ou moins solide. Évidemment, les compagnies de fonds, on a accès directement souvent aux gestionnaires. On parle aux gestionnaires de fonds. Ils ont des idées, ils nous expliquent leurs idées, puis des fois, ben, on peut leur voler des idées aussi. On a bien le droit de faire ça. Jean-René, avec l'équipe à l'interne là, de groupe conseil en portefeuille, qui sont très utiles aussi pour, des fois, nous aider à améliorer la qualité des portefeuilles. Puis évidemment, ben, on a CNBC et BNN, donc les deux postes de télé, CNBC pour les nouvelles financières américaines, BNN, les nouvelles financières canadiennes, ben, ça roule toute la journée. Là. Donc, on entend là-dessus des commentateurs, des gestionnaires, toutes sortes d'informations qui passe. Fait qu'avec toute l'agrégat...
Puis la presse, hein, des fois, on lit la presse, mais je sais que surtout toi, moi, je lis le Wall Street Journal. Donc, on essaye d'aller chercher le plus d'opinions possible pour éviter d'avoir un biais sur notre opinion. Puis des fois, on peut changer d'opinion quand on écoute les différents intervenants.
Ouais.
À quelle fréquence est-ce que nous révisons les portefeuilles de nos clients? Ça, c'est une question qu'on se fait poser souvent.
Exact. Donc, nous, on n'est pas en gestion discrétionnaire. Là, on l'explique toujours à tout le monde. Par contre, on a quand même des modèles on bâtit des modèles à l'interne qui nous servent d'inspiration ensuite pour faire des recommandations là, à la pièce, client par client. Donc, ces modèles-là, formellement, on les révise mensuellement, là, toutes les données financières des portefeuilles. Mais en réalité, ces modèles-là inspirent les recommandations. Donc, tous les clients ont tu sais, beaucoup de titres qui se chevauchent. Donc, on est là-dedans à journée longue. Là, tu sais, on suit nos titres, on les connaît bien. C'est aussi important d'éviter. Donc, tu sais, des fois, des clients disent « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu penses de telle entreprise? » Puis, tu sais, sur 450 clients, vous êtes tout seul à détenir une entreprise, c'est pas l'idéal. Tu sais, on s'entend. C'est pas impossible. Il y a plein de bonnes entreprises. On n'a pas l'exclusivité des bonnes idées. Donc, on veut personnaliser les portefeuilles des clients, mais quand même à l'intérieur d'une certaine rigueur. Donc, on est dans les modèles officiellement au mois, mais en réalité à tous les jours. Nous-mêmes, dans nos propres REER, on investit comme les clients. Donc, T'sais, quand votre compte baisse, le mien aussi baisse pareil ou à peu près. Là, on puis, a les mêmes titres.
Puis formellement, on fait des suivis avec nos clients aussi trimestriellement. Ça peut être plus fréquent si la situation est plus complexe. Mais vraiment pour parler avec vous puis discuter de qu'est-ce qui se passe de notre vision du marché aussi. Notre stratégie est plutôt buy and hold, donc acheter et détenir. Est-ce que tu peux expliquer cette stratégie-là?
Bien, on revient à notre première conviction. On ne fait pas de market timing. Hein. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à la bourse. Par contre, on sait qu'une bonne entreprise bien gérée va traverser les cycles économiques puis continuer de grossir à long terme. Donc, c'est un petit peu la méthodologie d'un Warren Buffett. Là. On ne prétend pas d'être aussi bon ou meilleur que lui. Mais si on achète des bonnes entreprises et qu'on les détient le plus longtemps possible, on va avoir du succès. Par contre, on ne veut pas non plus, donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait jamais de transactions. Bien souvent, on fait une révision trimestrielle, puis on va recommander de ne rien faire. C'est un choix conscient, mais au moins, on vous fait la recommandation de ne pas bouger. On a vérifié le portefeuille, puis on est à l'aise avec le positionnement. Par contre, des fois, il y a des titres qui vont avoir une performance là, tu sais, beaucoup supérieure aux attentes. Donc, la taille relative du titre dans le portefeuille va grossir par rapport aux autres. Puis ça, on pourrait dire, ben là, tu sais, on veut gérer le risque aussi. Réduisons un peu la taille de telle entreprise. C'est pas parce qu'on l'aime moins, c'est pas parce qu'on pense que ça va baisser. C'est juste que si on a une taille plus grosse que les autres, puis que ça va moins bien, notre risque est plus élevé. Fait que c'est vraiment un outil de gestion du risque de rééquilibrer le portefeuille et non de faire du market timing.
Puis on essaye d'inclure aussi des gestionnaires dans le portefeuille qui sont beaucoup plus actifs, qui font l'opposé de qu'est-ce qu'on fait pour avoir différents styles aussi dans le portefeuille.
Pour mieux diversifier. Puis, tu sais, des fois, les clients disent « Ah, là, tu sais, mes fonds performent moins, mais les actions vont mieux. » Puis l'année d'après, c'est « Ah, ouais, les actions, ça va moins bien, mais les fonds, ça va bien. » C'est volontaire, tu sais. C'est comme ça qu'on désigne, qu'on dessine les portefeuilles puis qu'on construit les portefeuilles.
Exactement. Donc, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'une position serait éliminée d'un portefeuille d'un client ou de tous nos clients?
Ouais, donc on a fait dans le passé là, une entreprise en particulier là, dont les chiffres d'affaires n'augmentaient pas. Là, on regardait les ventes brutes stagnaient, les bénéfices stagnaient. Donc, tu sais, si une entreprise n'est pas capable d'augmenter son chiffre d'affaires puis d'augmenter ses profits, son action en bourse, probablement qu'elle ne va pas augmenter non plus. Donc, à un moment donné, on a dit « OK, ça suffit. » Bien que la business fait du sens, les résultats sont juste pas là. Fait qu'on est passé à d'autres choses. Au niveau des fonds communs de placement, c'est sûr que quand l'équipe de gestion d'un fonds est remplacée, nous, on veut comprendre comment ils travaillent, c'est quoi l'historique. Donc, si j'ai beau garder le même fonds mutuel, mais si c'est pas la même gang qui prend les décisions, c'est comme si l'historique tombe à zéro, puis on recommence aujourd'hui. Donc, bien souvent, là, on n'aime pas tellement ça, puis on peut suggérer à ce moment-là de remplacer. Et là, après ça peut arriver dans nos modèles, mais là, la recommandation va être faite, encore là, client par client, parce que l'impact fiscal n'est pas le même pour chacun des clients. Donc, on va toujours, nous, essayer de mesurer ça, comment, si on pense que le titre est moins bon, mais OK, il est comment moins bon par rapport à comment d'impôt ça va coûter le vendre, on va quand même en parler. Donc,
Puis on peut changer de fonds parce que ben, le style de gestion ne convient plus. C'est possible que le gestionnaire ne performe plus pour X, Y raison. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on peut dire OK, c'est assez, on change de direction.
Puis... Ça peut être un changement dans le contexte géopolitique aussi. Là, il y a quelques mois, là, on a dit ah, t'sais, il se passe quelque chose au niveau géopolitique. Le premier ministre Carney en a un peu parlé, mais c'était ça. Là, il y a quelques mois, on sent une volonté du reste de la planète de s'organiser sans les États-Unis. Les États-Unis, clairement, font des gestes pour dévaluer leur devise. Ben, peut-être qu'on devrait augmenter un petit peu le contenu à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on élimine les Américains, par exemple. Quand on n'aime pas quelque chose, là, ça c'est Jean-René qui nous le dit tout le temps. T'sais, si tu n'aimes pas un titre ou si tu n'aimes pas un secteur, mets-en moins, mais mets-en pareil, parce qu'on ne sait pas en réalité qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est juste d'être un petit peu surpondéré, sous-pondéré, d'en mettre un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, il y a eu un changement macroéconomique, géopolitique l'année passée. Ben, on a un petit peu réajusté les portefeuilles là, pour réduire un peu l'exposition en Amérique du Nord. C'est un exemple là, de ce qui peut influencer le portefeuille.
C'est ça. Donc, toujours avec doigté, toujours en réfléchissant à votre propre situation et l'impact que ça peut avoir pour vous personnellement. Merci beaucoup, Martin, d'avoir pris le temps de partager tout cela aujourd'hui à nos auditeurs. Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de votre portefeuille ou de votre stratégie de gestion de patrimoine, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi sommes là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.